Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements informés, entre autres. Mission Pégase 2024 de l'armée de l'air française est présente en Indonésie. 1000 policiers français sécurisent le match de football olympique Israël-Mali. Chasse à l'immigration contrôle la contrebande de passeports malaisiens vers l'Indonésie. Président de l'Assemblée consultative populaire de la République d'Indonésie rappelle à l'Indonésie qu'il est important de disposer immédiatement d'une loi sur la cybersécurité. Au Makassar International Aid Festival et Forum. Muldoko reçoit une délégation parlementaire japonaise pour discuter du renforcement des droits de l'homme et Sipei participe au festival culturel du Kalimantan Oriental. Pour changer, voici les nouvelles en complet. L'Indonésie et la France ont organisé un exercice conjoint appelé Pitch Black qui fait partie de la mission Pégase 2024 de l'armée de l'air française dans la région Indo-Pacifique. Cette mission témoigne de l'engagement de la France dans la région Indo-Pacifique et de ses liens étroits avec ses pays partenaires de la région. Cette mission Pégase se déroulera du 27 juin au 15 août 2024. Le commandant de la mission Pégase, le général de la brigade Guillaume Thomas, dans un entretien spécial avec la voix de l'Indonésie, Voice of Indonesia, à la base aérienne Halim Perdana Kusuma, mercredi, a déclaré que cette mission Pégase vise à montrer la souveraineté française dans la région Indo-Pacifique. Les forces armées françaises sont donc pleinement engagées pour protéger la population française et les intérêts français dans la région. Cette mission est menée dans le cadre du droit international pour garantir une région Indo-Pacifique libre, ouverte et stable, en collaboration avec ses partenaires de la région. Par ailleurs, le commandant Guillaume Thomas a déclaré que dans cette mission Pégase, l'armée de l'air française avait invité l'Indonésie à se joindre à un entraînement conjoint pour protéger la zone. Guillaume Thomas a déclaré:
la mission Pégase consiste à déployer dans la zone Indo-Pacifique un dispositif aérien d'envergure, un dispositif aérien conséquent. Pour cette, donc c'est une mission que l'armée de l'air et de l'espace effectue chaque année. Cette année, nous engageons 7 Rafales, 5 A400M, 5 MRTT. Cette mission Pégase, elle nous permet aussi d'effectuer des escales avec des pays qui sont des partenaires stratégiques de la France, comme l'Indonésie. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui.
Le général de brigade Guillaume Thomas a précisé que cette mission incluait également des pays participant à la mission Pégase, comme le déploiement conjoint d'une flotte des pays du futur Air Combat System, le SCAF, composé de la France, de l'Allemagne et de l'Espagne sur la route occidentale, et un déploiement conjoint avec le Royaume-Uni sur la route orientale, en Australie pour participer au Pitch Exercice des Noirs. Pour Exercice Pitch Black, la mission Pégase impliquera l'armée de l'air indonésienne. De ce fait, selon Guillaume Thomas, une partie de sa flotte était présente à l'aéroport Halim Perdana Kusuma. Les avions présents étaient deux Airbus A330MRTT Phoenix, deux Airbus A400M Atlas et deux avions de combat Rafale. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré qu'environ 1000 policiers seraient en service pour assurer la sécurité du match de football entre Israël et le Mali aux Jeux Olympiques de Paris, où des manifestations sont également attendues. Le match impliquant l'équipe israélienne au stade du Parc des Princes à Paris mercredi, ainsi que le match Ukraine-Irak à Lyon, dans le sud-est du pays, ont été identifiés par les forces de sécurité françaises comme des matchs à haut risque. Tous les athlètes israéliens participant aux Jeux Olympiques de Paris, qui débutent officiellement vendredi, bénéficieront d'une sécurité personnelle assurée 24 heures sur 24 par la police française d'élite, à la fois à l'intérieur du village des athlètes olympiques et à chaque fois qu'ils quitteront le complexe au nord de Paris. Le match commence à 21h, heure locale, ou tôt jeudi matin à 2h, heure de l'Indonésie occidentale. Euro-Palestine, le groupe d'activistes français à l'origine des récentes manifestations, a déclaré qu'il prévoyait une manifestation pacifique à l'intérieur du stade pour protester contre le génocide à Gaza. Des agents du bureau d'immigration de classe 1, point de contrôle spécial d'immigration TPI Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, recherchent une personne contrôlant la contrebande de dizaines de passeports malaisiens vers l'Indonésie. Le chef du bureau de l'immigration de Soekarno Hatta, Subki Miludi, à Tangerang, a déclaré mercredi que l'auteur du contrôle de la contrebande des passeports portait les initiales R. L'auteur est actuellement sur la liste des personnes recherchées par les autorités indonésiennes de l'immigration. Il a expliqué que l'agresseur R, qui est un citoyen ou descendant indien, est connu pour contrôler deux ressortissants étrangers portant les initiales SK, 47 ans, et JM, 34 ans. Les deux étrangers ont été arrêtés avec succès par les autorités aéroportuaires. Il a révélé que les otards auraient tenté de faire passer illégalement des dizaines de passeports pour les acheter, les vendre et les utiliser comme moyen pour commettre l'acte criminel de traite de personnes, TPPO. Les deux otards ont été inculpés en vertu de l'article 130 de la loi numéro 6 de 2011 de la République d'Indonésie concernant l'immigration et sont menacés d'une peine de prison maximale de 2 ans et ou d'une amende maximale de 200 millions d'euros. Président de l'Assemblée consultative populaire de la République d'Indonésie, MPRRI Bambang Susatyo a rappelé l'importance pour l'Indonésie de se doter immédiatement d'une loi sur la cybersécurité afin de renforcer la cyberrésilience du pays face aux cyberattaques potentielles. Il s'agit d'un effort visant à faire face au développement rapide de la technologie numérique qui peut menacer la sécurité, la défense et la souveraineté de l'Indonésie, et qui pourrait même entraîner l'émergence d'une cyberguerre dans le monde numérique. Bambang Susatyo à Jakarta a mis en garde mercredi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 contre la possibilité que les cyberforces contrôlent un pays à distance et pourraient paralyser d'autres objets vitaux de l'État, tels que les centrales électriques, les réserves de pétrole et le fonctionnement du principal système d'armes militaires. Le maire de Makassar, Sulawesi du Sud, Mohamed Ramdan Pomanto, a apprécié le soutien international pour les activités du Makassar International Aid Festival et Forum au Festival Aid 2024. F8 comprend la mode, la gastronomie, les écrivains et polices de fiction, les beaux-arts, les gens, fusion de musique, de flore et de faune, et de fiam. Cette activité aura lieu sur la plateforme de la plage de Losari, dans la ville de Makassar, du 24 au 28 juillet 2024. Le maire de Makassar, lors de l'ouverture du F8, mercredi 24h sur 24 et 7 jours sur 7, a déclaré que jusqu'à présent, la mise en œuvre de cette activité annuelle a toujours reçu grand soutien des pays amis à travers le consulat général. Ramdan Pomanto a déclaré qu'environ 18 représentants de pays amis ont apporté leur soutien et ont participé au F8, parmi lesquels des délégations des consulats généraux d'Australie, de France, d'Allemagne, d'Inde, d'Italie, du Japon, de Malaisie, des Pays-Bas, des Philippines, de Pologne, de Singapour, de l'Émirats Arabes Unis, Angleterre, États-Unis, Brunei Darussalam et Hong Kong. Selon Ramdan Pomanto, la présence de ces représentants a également apporté de nombreux avantages à la ville de Makassar dans le secteur des investissements. Il espère qu'à l'avenir, il y aura encore plus de représentants des principaux pays du monde qui investiront dans la ville de Makassar. Le chef de cabinet du président indonésien Muldoko a reçu la visite du député japonais, le général Nakatani, accompagné d'une délégation au bâtiment Binagraha, Jakarta, mercredi 24 juillet. Au cours de la réunion, Muldoko et le général Nakatani ont discuté de divers aspects, notamment du renforcement des droits de l'homme. Tel que rapporté par Antara, Muldoko a partagé ses expériences concernant la mise en œuvre des droits de l'homme dans toute l'Indonésie. Il a expliqué que les différentes mesures prises par les gouvernements indonésiens pour améliorer la protection des droits de l'homme, notamment les efforts visant à résoudre les cas de violation des droits de l'homme. Muldoko et le général Nakatani ont également discuté des questions stratégiques telles que la stabilité régionale et la situation politique en Birmanie. Le Japon considère que l'Indonésie joue un rôle important au sein de l'ASEAN en termes de démocratie. Le général Nakatani espère que l'Indonésie pourra se joindre aux efforts visant à trouver une solution commune pour la démocratie en Birmanie. On espère que cette réunion ouvrira la voie à une coopération accrue dans les domaines de l'éducation, de la formation et de l'échange d'informations liées aux droits de l'homme entre l'Indonésie et le Japon. des représentants des 6 pays, à savoir la Bulgarie, l'Égypte, le Japon, la Corée du Sud, la Pologne et les États-Unis, participeront à un festival culturel international intitulé Festival folklorique international de Bornéo oriental, dans la province du Kalimantan oriental. L'activité, qui se déroulera du 25 au 31 juillet 2024, vise à développer la culture internationale ainsi qu'à présenter le Kalimantan oriental et la capitale de l'archipel. C'est ce qu'a expliqué mercredi le secrétaire régional de la province du Kalimantan oriental, Sri Wahyuni Asamarinda. Elle espère que le festival culturel deviendra un forum pour la promotion et la préservation des arts populaires. Sri Wahyuni a ajouté qu'outre les participants étrangers, il y avait également des participants nationaux des provinces du sud-est de Sulawesi, de Bangka Belitung, de Jakarta, du centre de Sulawesi, du nord de Kalimantan, du sud de Sulawesi et de la région spéciale de Yogyakarta. Ce premier événement artistique international réunira les ambassadeurs des pays amis. Bon chargé d'état, c'est tout. Les nouvelles.
Cédric, bonsoir. Voici l'accueil diplomatique dont le titre est « Les îles de Gamelan et Goyang-Gemu Famiré font la performance à Pékin ». Warisan Rumah Indonesia ou Héritage de la Maison Indonésienne, WRI, a organisé un événement en pression indonésienne rempli du jeu de Gamelan et la danse de la chanson « Gemu Famiré ». Gemu Famiré a été choisi selon l'un des fondateurs de Warisan Rumah Indonésia, Willy Darmawan, avant qu'il y ait une interaction entre le visiteur et la diaspora indonésienne. L'événement en pression indonésienne a eu lieu samedi le 20 juillet 2024 dans un restaurant aussi bien un théâtre en plein air situé à seulement environ 50 mètres du restaurant WRI dans le complexe de Langyuan Station, district de Chaoyang, Pékin. Vini expliquait que l'événement Impression indonésienne était un événement promotionnel pour WRI qui vient d'être ouvert en mars dernier. Selon Vini, chaque saison aura un événement différent. Vini a déclaré que grâce à l'enthousiasme et à l'interaction des visiteurs lors de l'événement Impression indonésienne, elle était optimiste quant au fait que la cuisine et la culture indonésienne pourraient commencer à être connues à Pékin. L'événement a également présenté un certain nombre d'artistes, dont Le Jeu d'Anklung par le professeur Dat Gamelan de la Centrale du Conservatoire de Musique de Pékin, CCOM, Risnandar. Il a interprété les chansons Ayo Mama et Molihua ou en indonésien Bunga Melati ou Fleur de Jasmin en français, ainsi qu'un jeu de tambour qui accompagnait la danse Manuk Dadali de Titi, qui est également professeur au conservatoire. Il y avait aussi du gamelan joué par des membres du Dharma Wanita Persatuan de l'ambassade Indonésie à Pékin, y compris Madame Wiwi Ortmangun. Épouse de l'ambassadeur Johri Ortmangun, a joué la musique d'ouverture de la danse du Pendet. La performance du chanteur Abdi Purnomo, qui est également étudiant indonésien à Pékin, Shantang Ojo Dibandingke et Rungkat, a également attiré un certain nombre de visiteurs qui se sont déhanchés ensemble sur scène. La dernière chanson, Gemu Famire, jouée par la diaspora indonésienne, a également invité de nombreux visiteurs à se déhancher sur scène. Warisan Rumah Indonesia WRI a préparé un total de 300 billets pour l'événement. Un billet coûte 65 renminbi ou RMB et est accompagné d'un verre de cendol froid. Presque tous les billets étaient vendus. Les visiteurs peuvent également déguster des spécialités indonésiennes cuisinées par les chefs indonésiens de WRI, tels que le rendang, les légumes du jacquier, les œufs balado, le tempeh, le poulet et d'autres plats. C'est Jurita, c'était l'accueil diplomatique pour ce soir. C'est Jurita, bonsoir, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 25 juillet 1978, la naissance du premier bébé éprouvette au monde, Louise Braun. La naissance de Louise Joy Braun a eu lieu par une procédure de FIV ou de fécondation in vitro au District General Hospital de Manchester en Angleterre. La FIV est un processus de fécondation d'un ovule en dehors du corps. Le processus de fertilisation est effectué dans un laboratoire spécial. Les procédures de FIV sont pratiquées depuis les années 1970. Après diverses expériences, Louise Braun est enfant né. Passons maintenant à l'événement du 25 juillet 2000, écrasement du Concorde 400-590 à Gonesse, France. Le Concorde 400-590 était un avion Concorde de la flotte Air France qui s'est écrasé après avoir décollé de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, en France, à destination de New York aux États-Unis. Au décollage de Concorde d'Air France, 4590 a heurté un morceau de métal sur la piste, provoquant l'éclatement de pneus de l'avion. Le fragment de pneu a heurté le réservoir de carburant, ce qui a ensuite provoqué un incendie. L'accident a tué membres d'équipage et 100 passagers à bord, ainsi que 4 personnes au sol, et 6 autres ont été blessés. L'accident d'avion était le premier accident mortel de Concorde en 24 ans de service régulier de passagers. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 25 juillet 2021, la commémoration de la Journée mondiale de prévention de la noyade. La Journée mondiale de prévention de la noyade a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en avril 2021 pour être commémorée tous les 25 juillet. Selon l'ONU, la noyade est la première cause de décès accidentels. Le but de la Journée mondiale de prévention de la noyade est de sensibiliser davantage aux dangers de la noyade, tout en informant le public sur le moyen de prévenir et de sauver les gens de la noyade. On estime que 236 000 personnes se noient chaque année et la noyade est l'une des 10 principales causes de décès chez les enfants âgés de 5 à 14 ans. C'est l'histoire de aujourd'hui pour ce soir.
Janjiku takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Oh, baby 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 baby, I want you to know.
C'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Sejuritak, bonsoir. Voici mon Indonésie ayant pour le titre « Réglementation dérivée pour le captage et le stockage du carbone ont été synchronisées » a affirmé le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales. Le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales a déclaré que le règlement ministériel, qui est également en dérivé du règlement présidentiel numéro 14 de 2024 sur la mise en œuvre des activités harmonisées de captage et de stockage du carbone, est actuellement en attente de l'approbation du président Joko Widodo. Le secrétaire général du ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales, Dadan Kusdiana, a déclaré mardi dans un webinaire intitulé « Commerce et échanges indonésiens de carbone 2024 » que, grâce à cette réglementation dérivée, le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales aura la possibilité de contribuer à la réduction des émissions de carbone, notamment sous forme de captage et de stockage du carbone. Ce captage et ce stockage du carbone sont connus sous le nom de stockage du captage du carbone, SCC. Outre le stockage du captage du carbone, Dadan a également déclaré que le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales s'efforce actuellement d'utiliser les énergies renouvelables ou les énergies à faible émission de carbone. Pluto, le directeur de l'ingénierie et de l'environnement à la Direction générale du pétrole et du gaz, Nour Arifin Mohamed, a déclaré que 17 points étaient en discussion pour être inclus dans les réglementations dérivées du décret présidentiel numéro 14 de 2024, tels que la certification de la capacité de stockage de carbone, procédure de préparation de l'essence carbone, procédure d'enchère et coût de stockage. Sur les 17 points, 7 doivent être discutés entre le ministère et les institutions. Nour Arifin a déclaré que ces réglementations dérivées ne concernent pas seulement le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales, mais impliquent divers autres ministères et institutions. C'est Rita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français. Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Changez de tard, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Ces retards, le village touristique de Krebet dans la région spéciale de Yogyakarta est connu pour ses étonnants produits artisanaux sous forme de batik en bois. Cette forme de batik utilise des colorants naturels appliqués sur les bois, créant une beauté époustouflante. Outre le batik en bois, ce village touristique possède des attractions naturelles et artificielles telles que la cascade Jurang Pulosari et Sendang Tirto Waluya, qui est l'une des anciennes sources de villages touristiques de Krebet. C'est pourquoi cette fois nous vous invitons à découvrir de plus près le village touristique de Krebet, qui est inclus dans la liste des 50 meilleurs villages touristiques du concours de récompense pour les villages touristiques indonésiens ou ADWI 2024. Le village touristique de Krebet est situé à Sendang Sari, le district de Pajangan, la région de Bantul, dans la région spéciale de Yogyakarta. Il se trouve à environ 18 km du centre-ville de Yogyakarta et à environ 7 km du centre-ville de Bantul. La spécialité du village touristique réside dans le caractère unique du batik en bois fabriqué au village. Plus de 300 personnes travaillent à la fabrication de batik en bois dans le village touristique de Krebet. Si le batik Komang utilise le tissu comme support, le batik dans le village touristique de Krebet utilise le bois comme support. Les visiteurs pourront participer à des activités d'apprentissage de batik en venant directement à la galerie des artisans. Pour participer à cette activité, il suffit de débourser entre 30 000 et 85 000 rupiah selon la taille du batik en bois. Les visiteurs recevront des supports pour faire du batik ou des marionnettes en outil en forme de stylo appelé canting, des réchauds avec des bougies, des tabliers de protection et d'autres équipements de batik. Ces rituels, en plus de fabriquer du batik, vous pourrez profiter d'attractions naturelles telles que la cascade de Jurang Pulosari et Sendang Tirta Waluya. N'oubliez pas d'essayer l'exploration hors route du village touristique de Krebet. Il dispose d'une zone tout-terrain à Pulosari couvrant une superficie de 1,3 hectares. Vous pouvez également choisir de profiter des arts et des cultures communautaires locales laissées par les ancêtres et encore préservées, comme le jatilan, le ketoprak, le wayang kulit ou marionnette d'ombre. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent passer la nuit, ne vous inquiétez pas, car ce village propose 25 séjours chez l'habitant que vous pouvez louer. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, fréquence. À bientôt!
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, on va sur la rubrique l'Indonésie en couleur, intitulée Le Festival Wolobobo Ngada 2024. La région de Ngada organise un événement intitulé Festival Wolobobo Ngada 2024. Ce festival est un festival visant à mettre en valeur la diversité potentielle des coutumes, des traditions et des arts, et aussi de la culture, un patrimoine ancestral plein de philosophie de vie humaine des habitants de la région de Ngada. Cette année, le festival Wolobobo Ngada porte le thème Café, tissage, bambou, pour mettre en valeur les richesses naturelles et culturelles de Ngada, qui constituent depuis longtemps une identité régionale et placer le nom Ngada sur la carte agricole et patrimoniale nationale et internationale. Le café Arabica Bajawa est reconnu comme l'un des cafés de la meilleure qualité, comme le bambou qui pousse en abondance dans la cour de chaque village et dans les chambres des habitants. Le tissage Ngada, qui est unique et possède un fort caractère aujourd'hui de plus en plus célébré grâce à l'utilisation de teintures naturelles indigo vera. Ces trois éléments sont les atouts mis en avant dans le festival Wolobobo Ngada. Le chef de l'Office de Tourisme de la région de Ngada, Nusa Tenggara Est, Octavianus Botajawa, a déclaré que le festival Wolobobo Ngada était inclus dans la mise en œuvre de l'événement Charisma Nusantara du ministère du Tourisme et de l'Économie Créative en 2024. Il espère également que cet événement pourra attirer des touristes à visiter la région de Ngada et avoir un impact sur l'économie des habitants. De plus, ce festival annuel présentera des produits de qualité supérieure qui reflètent la richesse culturelle et la diversité créative du peuple Ngada. Le festival Wolobobo Ngada 2024, qui se tiendra du 25 au 27 juillet 2024, concentrera les activités dans trois lieux principaux, à savoir le parc Kartini dans la ville de Bajawa, le marché au bambou du campus bambou Touré Togo et la zone de randonnée du café sur la colline de Wolobobo. Ce festival se déroulera gratuitement afin de permettre la participation de toutes les couches de la société, afin qu'ils puissent profiter de divers événements qui ont été préparés. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
I'm losing myself without you. I'm feel so lonely, but you'll still be fine. Time will tell what you need the most. We're born quiet, I will die alone. So bring yourself on a higher
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme kroncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie au monde.
And me, my bro, and Bozi, that was you.
C'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson du groupe de musique Wayang, avec moi Audrey. Chargé tard, Wayang, un groupe de musique fondé en 1995. Le nom Wayang lui-même est tiré des initiales de chaque membre, à savoir Wahyu Adrianto, Ahmad Fauzi, Ramdan Wahyudi et Gilang Arisha. À cette époque, ce groupe avait un batteur, un garçon de 8 ans, Gilang Arisha. Grâce à la chanson Damai, le nom Wayang est devenu connu du public. La chanson Damai est incluse dans l'album du même titre Damai, sorti en 1997. Cette chanson décrit la paix du cœur d'une personne lorsqu'elle voit le soleil briller à nouveau le matin. Mon cher Jolitar, voici la chanson du groupe de musique Kwayang intitulé Damai. Bonne écoute.
Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
Main apa?
Jangan lupa ya, bisa mainan.
Gak bisa bermain dan bermain.
Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
Yaudah, nanti kalian dijemput hari.
Bonjour Jetard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.